Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Rodolphe Gélin et je vais vous parler de robots humanoïdes. Donc, je travaille pour la société Aldébaran Robotics, que je vais vous présenter rapidement. Et puis, je vais vous présenter donc, ce qu'on fait avec les robots humanoïdes en général et les développements en cours sur le robot Roméo. Roméo qui sera là samedi prochain, donc samedi après-demain à 19h, lors de l'exposé que je ferai à ce moment-là. Et là, c'est plus Roméo que moi qui parlera. Là, il se prépare. Et donc il répète, mais donc aujourd'hui, il n'y aura que moi, désolé, mais quelques vidéos quand même. Donc Aldébaran, c'est non seulement une étoile que vous connaissez bien, parce qu'Alexandre Astier en a beaucoup parlé hier soir, si vous étiez à sa conférence, et donc j'étais très content de voir qu'il nous faisait de la pub. Alors lui dit Aldébaran, nous on dit Aldébaran, mais c'est la même chose, c'est une constellation. Donc notre fondateur, Bruno Maisonnier, est un fan de science-fiction, et donc il avait souhaité donner ce nom stellaire à sa société. Donc on a été créé en 2005. On est basé à Paris, principalement, mais aussi un petit peu à Nantes, comme je vous le dirai. Et aujourd'hui, après donc 9 ans d'existence, on peut dire que cette société française est le leader mondial de la robotique humanoïde. Alors il faut rester humble, ça ne veut pas dire grand-chose, leader mondial de la robotique humanoïde. Ça veut dire que c'est nous qui fabriquons le plus de robots humanoïdes dans le monde. Et puis après, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est les nôtres qui courent les plus vite, qui font les choses les plus extraordinaires, mais on a le mérite d'en produire en série. Et ça, c'était le rêve de pas mal d'entre nous quand on voyait des films comme iRobot, où on voyait toutes ces étagères pleines de robots prêts à partir. Nous, chez Aldébaran, c'est pareil, on a des salles entières remplies de robots prêts à aller rendre service à nos clients. Alors, Aldébaran, quelques chiffres. Donc il y a 5 implémentations, donc 5 lieux. Donc notre quartier général est à Paris. Et puis on s'est installé aussi à Boston, aux États-Unis, à Shanghai et en Chine. Bon, ce sont principalement dans ces endroits-là des lieux de vente, des lieux de relations avec les clients, de services après-vente, parce que les robots, c'est comme une machine à laver, c'est bien de les vendre, c'est bien quand ça marche, mais il arrive que parfois ça tombe en panne, donc c'est bien d'être au plus près De nos clients, donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on s'installe un peu partout dans le monde. Et puis quand on est trop loin, on a des intermédiaires qui nous aident pour la maintenance, par exemple en Amérique du Sud. Et puis on a aussi un petit labo à Nantes, comme je le disais. Donc à Nantes, on s'est créé un labo qui fait une recherche sur la main. Vous verrez que la main de nos robots est pour l'instant assez simple. Il y a juste un degré de liberté, comme on dit, donc elle s'ouvre et ça se ferme. Et on sait bien que pour les applications futures et pour l'interaction, la gestuelle, ça serait mieux d'être un peu plus dextre avec ses mains. Donc, toute la recherche se fait ici à Nantes. On est aujourd'hui plus de 400 personnes, principalement des gens qui font de la recherche et du développement, donc des ingénieurs, des développeurs, des techniciens, mais évidemment aussi pour assurer le service après-vente, du marketing, des juristes pour faire des procès et pour signer des contrats. Voilà, donc on est une vraie grosse société avec tout ce qu'il faut pour faire vivre une société. Et aujourd'hui, on a vendu plus de 6000 NAO. Donc ce petit robot humanoïde que je vous présenterai, j'imagine tout le monde a déjà vu un NAO ici. Qui n'avait jamais vu de NAO en vrai? Ah, pas trop, super. Bon, alors il y en a sans doute un qui viendra avec Roméo samedi. Si vous êtes encore là, vous le verrez aussi. Et donc, plus de 1000 labos s'en servent, 10 000 personnes utilisent des NAO de près ou de loin. C'est encore pas beaucoup, mais ça fait qu'on est le plus développé. Alors ici, je tenais à vous montrer une vidéo qui est toute récente. Et très bien réalisée. Is scary. For others, future is unpredictable. But for us, future is now. Voilà, un tout petit teasing pour ceux qui n'ont jamais vu NAO. J'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle a un petit air science-fiction. Et il est encore plus beau que dans la réalité. Alors notre vision, c'est de faire... L'objectif d'Aldébaran, c'est de faire des robots pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, vous avez vu, on cible une population qui est quand même assez pointue, les chercheurs, les enseignants. Mais notre objectif, c'est vraiment, la société a été créée pour ça, faire des robots pour le plus grand nombre, pour aider des gens chez eux, pour être un compagnon, pour les amuser. Le marché de masse. Le marché de masse, parce qu'on veut que les gens aient des robots, parce que c'est rigolo, puis parce que c'est comme ça qu'on gagnera de l'argent. Si vous faites que des marchés de niche, c'est assez difficile de gagner de l'argent. à moins de faire comme Rolls-Royce, faire un tout petit marché avec des objets très très luxueux. Voilà. Et nous, le modèle qui nous intéresse, c'est plutôt le business model, c'est plutôt du Renault, quoi, de la voiture que tout le monde peut s'acheter, du robot que tout le monde peut s'acheter et dont tout le monde peut profiter. Vraiment amener la technologie au service de tout le monde. Alors, choisir la forme humanoïde, ça n'a pas été le plus malin. Ça n'a pas été le plus malin d'un point de vue technique, parce qu'au moment où Bruno Mezzoni a créé Aldébaran, on voyait plein de publications scientifiques, notamment japonaises, où on voyait l'humanoïde, bon, bah, ça a l'air bon, tout le monde sait faire des humanoïdes, la techno est prête, on peut y aller, on peut faire copier-coller et mettre ça chez les gens. En fait, bah voilà, 9 ans après, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, et que la difficulté n'est pas forcément là où on le pensait, dans la mécatronique, dans la fabrication du robot, mais plus dans les usages qu'on va pouvoir y trouver. Alors, cette forme humanoïde, justement, d'un point de vue des usages, elle est super, parce que, comme vous êtes humanoïde, bah, potentiellement, comme l'humain, vous pouvez faire n'importe quoi. Et puis surtout, mais aussi vous faites rien vraiment bien. Pour passer l'aspirateur, un Roomba, c'est quand même mieux, une petite galette qui a juste un aspirateur et des roues. Mais voilà, potentiellement, ça ouvre des capacités d'application extraordinaires. À l'origine, les premiers qu'on fait de la recherche sur la robotique humanoïde, c'était pour mieux comprendre l'homme. Quand on modélise les gens qui essayaient de comprendre comment réfléchit un homme, comment marche un homme, bah, ils avaient une théorie. Ils écrivaient des équations, puis comment vérifier que leur équation est bonne ? C'est difficile de retirer le cerveau de quelqu'un, de lui mettre une autre équation à la place et de voir si ça fait le même comportement. Donc fabriquons un robot humanoïde, mettrons notre algorithme dans cette tête et on voit si ce robot va se comporter comme un homme ou pas. Et c'est comme ça qu'on va voir que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment intelligent, que les algos de marche, bah, c'est pas vraiment comme la marche. Voilà. Et on va apprendre de plus en plus sur la façon dont l'homme se comporte, on va mieux comprendre l'homme. Mais après, d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, bah aussi on s'aperçoit qu'un petit robot humanoïde, il attire beaucoup plus la sympathie que des robots à roulettes. Il faut vraiment être Pixar pour faire de Wall-E un objet sympathique, ou alors R2-D2. Mais en général, c'est beaucoup plus d'interagir. On est intuitivement beaucoup plus attiré vers quelque chose qui a une tête, des bras pour communiquer. En plus, on bénéficie de tous les avantages qu'apporte un langage corporel que peut apporter un robot humanoïde. Et puis, comme je le disais, bah, comme notre environnement est fait pour nous, bah, autant faire un robot qui a notre forme pour monter un escalier, pour attraper des objets. Voilà, tout ça fait que, et en plus, c'est plus rigolo de fabriquer des robots humanoïdes que de fabriquer des boîtes de conserve à roulettes. Donc aujourd'hui, Aldébaran a 3 robots. Donc Nao, qui est le plus répandu. Pepper, qui a été créé, qui a été présenté en mai dernier, donc qui est tout récent. Que vous verrez probablement pas beaucoup parce qu'on l'a fabriqué pour une société japonaise qui s'appelle SoftBank. Et pour l'instant, SoftBank se le garde jalousement. Il dit, c'est mon robot, c'est moi qui l'ai payé, je le veux que pour moi et je veux pas que les autres en profitent. Bon, c'est pas si simple, hein, il va commencer à le vendre de son côté. Mais voilà, donc ça va être un robot un peu plus rare. Je vais vous montrer une vidéo juste après. Et Romeo, lui, c'est une plateforme de recherche qu'on commence à présenter. On est très heureux de venir ici le présenter. Ça sera la 3e fois qu'on le présentera au public. Et donc, bah voilà, depuis très longtemps, les Utopiales voulaient l'avoir. Donc, on est très heureux de le présenter samedi. Alors, je vais vous présenter Pepper en vitesse, parce que je ne vais pas trop vous en parler. Par ailleurs, c'est un robot qui est très joli. Il a été conçu pour accueillir des gens dans les boutiques de SoftBank, donc notre client. SoftBank est un énorme opérateur téléphonique au Japon et qui va avoir ce robot dans ses boutiques pour accueillir ces personnes. Donc c'est à la fois un objet de marketing, ça va attirer, puis après il va petit à petit rendre des services. Et alors là on voit Georges Clooney qui s'approche avec son Nescafé, parce que hier on a appris que Nestlé justement a acheté 1000 Pepper à SoftBank pour le mettre dans ses boutiques. Et donc comme ça, ça fera un peu de vacances à Georges Clooney, qui ne sera plus harcelé dans les boutiques. Ça sera Pepper qui accueillera le public à sa place. Et donc ça va lui laisser un peu de temps libre pour retourner au cinéma. Donc voilà, un robot d'accueil, un robot dédié à l'interaction avec les gens. Bon, mais je vais vous montrer qu'en gros, toutes les recherches qu'on fait sur Pepper sont intégrées, commencent sur Nao, commencent sur Romeo. Et donc tout ce que vous verrez ici, vous verrez même quelques recherches spécifiques à Pepper. Voilà, tous nos robots sont compatibles et échangent tous leurs progrès. Nao, donc notre robot le plus diffusé, son quotidien, bah, comme je vous l'ai dit, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est le développement. Donc c'est une plateforme ouverte de développement. Donc ça, il faut que vous compreniez ça. De la même façon qu'un téléphone portable où vous êtes un utilisateur, en général, j'imagine, Mais il y a aussi beaucoup de gens qui développent des applications sur les téléphones portables. Et c'est ça qui fait la richesse du téléphone portable, c'est qu'il y a des tas d'applications dessus. Le robot, bah, ça va être aussi comme ça. Et c'est ça qui est en fait un petit peu long dans la mise en place du robot pour tous, c'est qu'il faut que ce catalogue d'applications il soit suffisamment grand pour que les gens en trouvent un usage et soient contents d'avoir un robot parce qu'il y a tous les jours des nouvelles applications qui vont les amuser, qui vont leur rendre service. Et donc va se créer derrière nous tout un écosystème, comme on dit, de gens qui vont développer du contenu pour nos robots. Et c'est ça qui est un petit peu long, parce que développer une application pour robots, c'est très nouveau. Autant des gens qui développaient des applications sur PC, quand il a fallu les passer sur portable, il y a du spécifique, mais c'est quand même un peu la même nature d'interaction. Un robot, bah, il faut gérer du capteur, il faut gérer du mouvement, et donc le métier de développeur d'applications pour robots n'est pas instantané, et ça c'est tout un domaine qui doit se créer. Il faut que dans les écoles existent des gens qui développent, apprennent à développer des applications pour robots humanoïdes. Et ça ne se fera pas en un jour, même si ça se fera plus vite que d'aller sur Alpha du Centaure. De ce point de vue-là, on est un peu en avance sur le voyage interstellaire. Et d'ores et déjà, le robot commence à aider des gens. Il aide. J'ai vu un de nos clients nous a acheté des robots pour mettre dans des maisons de retraite. Et le robot, bah, c'est le petit compagnon de la maison de retraite. Il est à l'entrée il est dans le hall le matin. Les résidents passent et disent tiens Nao, qu'est-ce qu'il y a à manger à midi? Ça c'est la question la plus posée par les personnes dans les maisons de retraite. Quand elles rentrent, quand elles voient quelqu'un du personnel hospitalier, qu'est-ce qu'on mange à midi? Donc voilà, bah, allez demander à Nao, et petit à petit Nao est devenu leur ami parce que lui il sait toujours et il se lasse jamais de répéter qu'à midi il y a un petit pois carotte. Et puis il peut donner la météo aussi et quelques informations. Ça c'est le premier mode un peu autonome, un peu bébête du robot. Et puis il y a un autre mode qui n'est pas beaucoup plus malin mais qui est un peu plus du point de vue de l'utilisateur plus spectaculaire, c'est que le robot est téléopéré par un infirmier, par un ergothérapeute, et le robot va donc interagir, mais de façon comme une marionnette, en fait, à distance, pour faire jouer la personne, pour la faire réfléchir, pour discuter avec elle. Donc d'un point de vue robotique, c'est pas l'intelligence, l'autonomie dont on rêve, mais au moins, ça montre que les gens sont prêts à s'attacher, à échanger avec ça, et on a des projets de recherche où on va s'inspirer de ce qui se passe dans ces opérations téléopérées, dans ces échanges téléopérés, pour remplir d'intelligence le robot, voir comment on aimerait que le robot réagisse quand il est téléopéré pour le rendre autonome et s'inspirer de ce qu'on fait en téléopération pour le rendre intelligent et faire ça tout seul. Et puis une application aussi qui tourne bien, c'est l'assistance aux enfants autistes. Et là, j'ai un film que je vais essayer de vous lancer sur l'écran que vous voyez. Ah oui, ça marche. Voilà. Et qui explique aussi comment l'esprit d'Aldébaran, qui est de faire une communauté de gens qui vont échanger leur savoir-faire. Il y a du son là. What if an animator could bridge a habitual child to an ever-evolving community? What if a researcher could implement innovative technology to minimize overstimulation in children and improve learning? What if these people and others from around the world came together on a journey to transform the classroom? C'est sous-titre. En original, en anglais, sous-titre en anglais. S'il y a des sous anglophones, c'est très bien, sinon faut que vous compreniez l'anglais. Bon, vous comprenez, j'imagine, hein, je n'ai pas besoin de traduire. Des compétences tout autour du monde s'unissent, informaticiens, animateurs, éducateurs, pour développer les bonnes applications adaptées aux enfants autistes, par exemple. Bon, ça, rien de nouveau. Hein. Quand vous développez une application sur PC pour l'éducation spécialisée, de la même façon, des ergothérapeutes et des éducateurs et des informaticiens travaillent ensemble, là, il y a en plus l'animateur. Et l'animateur, voilà, c'est dans le développement de des applications robotiques, c'est très important. C'est ça qui va donner de la chair, de l'existence à tous les mouvements du robot. Et on a pas mal de... On fait travailler chez nous des gens qui viennent de la communauté du dessin animé, parce que cette gestuelle qu'on voit faire à notre robot, si c'est une gestuelle purement géométrique d'ingénieur, elle va être moche, elle va être froide. Toute la différence se fait dans la façon dont les gestes sont faits. Et à ce moment-là, le lien se crée très bien avec les enfants. Et là, les enfants autistes aiment particulièrement ce Nao, parce qu'ils aiment la technologie en général. Et en particulier, bah, cette petite bouille, le fait qu'il n'a pas de visage, pas de sourire, et ça les rassure, parce qu'ils ont du mal à interpréter. Là, ils arrivent bien à interpréter tous les gestes du robot. Et ça va vraiment les attirer, simplifier leur approche pour les emmener faire des exercices et même créer des rapprochements entre les enfants puisqu'ils vont, des enfants qui sont toujours souvent un peu refermés sur eux-mêmes, vont aller se mettre à jouer ensemble sur le même robot. Donc, je vais essayer de fermer cette fenêtre sans tout fermer. Voilà, alors la prochaine étape, bah, c'est ce qu'on voit sur ce petit film, alors que là, j'ai peut-être montré il y a 2 ans, parce qu'il est très révélateur de ce qu'on voudrait faire. Mais j'ose espérer que voilà, tout le monde n'était pas là il y a 2 ans. Donc ça, c'est une simulation encore. Hein. Là, le robot, on l'aide un petit peu, mais ça montre comme quoi, déjà, un tout petit robot humanoïde comme Roméo, comme Nao, pour aider une personne âgée et aveugle. Cette dame qu'on voit là est malvoyante, comme on dit.
Oui, très bien.
Alors là, vous entendez le bruit que fait Nao quand il bouge, qu'on n'entendait pas sur la toute première vidéo que je vous ai montrée. Hein. Une des choses qui faisait que la vidéo était très spectaculaire, c'est que tous les mouvements se faisaient dans le plus grand silence.
Mets-moi les informations.
Un des soucis de Nao, c'est qu'il est très bruyant.
Comme d'habitude.
Voilà.
Très bien.
N'oublie pas que tu peux, quand tu le désires, me demander de l'aide. Voici les gros titres du monde aujourd'hui. Le marché automobile américain rebondit.
Vous comprenez le principe, hein, Nao va être une espèce d'interface entre la personne et le monde numérique. Ici, des flux RSS, puis on verra d'autres exemples après que peut-être je sauterai si le temps nous manque. Voilà, donc c'est l'interface ultime. C'est le seul objet auquel la personne aura à parler en langage naturel pour accéder à tous les services de la maison, la domotique, l'ordinateur, Internet. Avec en plus, bah, alors vous me direz tout ça, vous pouvez le faire avec une tablette ou avec un téléphone portable. Bah, la différence, c'est que là, on a une mobilité. Alors le fait qu'on a une présence d'un petit être rigolo auprès de soi, bon, on aime ou on n'aime pas, mais surtout le fait qu'il peut être toujours près de la personne. Vous voyez, là, la personne a changé de pièce, et bah, le robot est maintenant auprès d'elle et va pouvoir lui signaler, par exemple, que là... Qu'est-ce qu'il va dire ?
Tu as reçu un email de Pierre.
Voilà.
Je vais te le lire.
Il est la boîte aux lettres à pattes qui est toujours auprès de la personne.
Oui, Nao.
Vous savez que... Enfin, vous savez sans doute... Peut-être, vous imaginez bien que les personnes âgées, seules, elles ont peu de visites, malheureusement, elles passent beaucoup de temps toutes seules, et les rares fois où elles reçoivent un coup de téléphone, elles sont tellement contentes d'entendre le téléphone sonner qu'elles se précipitent pour aller décrocher le téléphone. Et c'est l'origine d'une bonne part des fractures du col du fémur, c'est la personne ne veut pas manquer son appel téléphonique de la journée et tombe en allant décrocher le téléphone. Avec un robot qui suit la personne partout, bon, on peut aussi diminuer ces risques-là et diminuer d'autres risques aussi. Quand il y a eu la canicule en 2003, plein de personnes sont mortes déshydratées. Le robot peut dire régulièrement, il fait très chaud, est-ce que tu as pensé à boire ? Voilà. Donc des choses aussi simples que ça peuvent être réalisées avec un robot aussi petit et aussi simple, toute proportion gardée, que Nao. Bon, je vais sauter la fin du film parce que le temps est un peu limité. Et puis vous êtes quand même là pour entendre parler de Roméo.
Oui, Nao.
Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on vise, la prochaine étape, avoir des robots chez vous pour vous aider. Alors, on a fait, alors ça, c'est une espèce d'une preuve de concept, hein, c'est un peu mis en scène, mais on a fait une première rencontre de Nao, on en fait plusieurs, mais de Nao avec des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et alors, on a fait ça dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Roméo, avec une association qui gère des centres de rééducation, une école de design et un labo du CNRS. Et voilà les réactions des gens. On les met devant Nao, alors ils le voient, ils jouent un peu avec, on a mis quelques jeux assez simples. Et voilà les réactions qu'on a eues. Alors, certaines réactions positives. Il est plus mignon qu'un fauteuil roulant. Alors, vous pouvez me dire, moi je pense que le jeune homme qui a un fauteuil roulant comprendra pourquoi les gens font cette réaction-là. Le fauteuil roulant, c'est un objet technologique très utile, mais qui est aussi très stigmatisant. Quand on est sur un fauteuil roulant, les gens vous regardent comme quelqu'un dans un fauteuil roulant. Et puis voilà, on ne vous dit pas, tiens, tu es sur un objet technologique extraordinaire. Et donc, une assistance technologique qui a la forme d'un robot humanoïde, c'est tout de suite plus rigolo, plus satisfaisant qu'un objet métallique, froid et difficile à piloter. Il a une bonne tête, c'est un copain. Donc, comme je vous disais, cette forme humanoïde va créer du lien. Les personnes à froid, quand, avant de lui montrer un robot, quand vous dites à une personne âgée, je vais te donner un robot pour t'aider, oh, bah non, un robot, je ne sais pas comment ça marche, c'est compliqué. Voilà. Dès qu'on lui montre Nao, il oublie que c'est compliqué, il oublie qu'il ne sait pas comment ça marche, il trouve que c'est rigolo, il veut jouer avec. Je ne m'attendais pas à ça. Comme ça, bah, c'est ce que je vous disais, j'aurais plus besoin d'avoir mon téléphone tout le temps sur moi, le téléphone me suivra, et je pensais qu'il serait plus grand. Alors j'ai mis ça dans les points positifs, parce que comme moi j'ai envie de faire Roméo qui est plus grand, ça m'arrange qu'ils disent ça. Et les réactions négatives, bon, c'est rigolo, et puis ça sert à quoi? C'est encore un gadget, de toute façon il ne comprendra jamais rien ce que je lui dirai, ce en quoi ils n'ont pas tort. Pour l'instant, nos robots ne sont pas très malins. On aura l'occasion d'en parler, de savoir pourquoi. Il ne saura jamais assez de choses sur moi. Il ne comprendra jamais que tel médicament, je ne peux pas le prendre avec tel autre. Voilà. Bon, des idées reçues, des bonnes, des mauvaises. Mais il faut faire avec. Et puis, des recommandations. Le robot ne doit pas décider pour moi. Le robot doit être fiable. Donc voilà, les personnes ne veulent pas être dominées par leur robot. Le robot doit être fiable. Il faut qu'il soit plus grand. Plus grand, mais pas trop. Je veux que quand je suis assis, je ne regarde pas le robot comme s'il allait m'écrabouiller. Et je ne veux pas qu'il fasse ce que je peux faire. Donc c'est important que le robot reste à sa place et n'infantilise pas la personne en faisant n'importe où à sa place, mais qu'il y ait bien un vrai rapport, un vrai partage de ce que le robot peut faire et ce que la personne peut faire. Et on a des recherches assez intéressantes là-dessus sur le robot prend la place de la personne en face de laquelle il est. Et si la personne lui demande une chose qu'elle est capable de faire, le robot dit, bah non, tu peux le faire, tu peux attraper cet objet, ou alors je te le rapproche un peu, puis tu pourras le prendre. Voilà. Et comme ça, on va vraiment laisser le robot à sa place et continuer à faire travailler la personne pour qu'elle ne se ramollisse pas, qu'elle continue à être toujours exploiter au maximum tout ce qu'elle peut faire. Donc on a développé ce projet Roméo qui est la plateforme de recherche d'Aldébaran, donc l'endroit, le robot sur lequel on testera des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, des nouveaux usages, des projets collaboratifs, donc c'est-à-dire des projets où on se met à plusieurs, des industriels, des chercheurs, pour faire améliorer la technologie. On a eu une première version avec 13 partenaires, puis une nouvelle avec 18, on a un projet européen, voilà. On se met à beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail, il faut vraiment, Aldébaran ne pourra pas faire ça tout seul, parce que c'est beaucoup de travail, parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées, qui sont à la limite de ce que la science sait faire, pour réussir à atteindre ces objectifs de vrais robots d'assistance. Alors, on récupère tous les besoins tous les remarques que nous ont dit les gens, puis on les organise un petit peu par ordre de priorité. Donc ça, on fait ça avec l'entourage des personnes âgées, qui nous disent, premier, la sécurité. Le plus important, c'est la sécurité. Il faut qu'ils détectent quand la personne est tombée, qu'ils l'empêchent de tomber éventuellement, qui voit si la personne marche moins vite et moins fringante que d'habitude, elle va l'aider à se déplacer, à détecter s'il y a des objets dans son chemin habituel pour les écarter, rappeler qu'il faut prendre les médicaments, qu'il faut s'alimenter. Donc vraiment, le premier point, prendre soin des gens. Et ça change pas mal, je trouve, la vision que on a tous, quand on aime la science-fiction, l'idée que le robot, c'est un danger. Alors c'est peut-être la contraposée, justement, de dire la première mission du robot, c'est d'assurer notre sécurité. C'est la première loi d'Asimov en un sens, mais on la retrouve ici. Après, le deuxième, c'est la communication. On l'a beaucoup vu. Hein. Veillez à ce que le robot... On nous dit souvent, ouais, mais alors du coup, les gens, ils vont vivre seul à seul avec leur robot. Est-ce que ce n'est pas déshumanisant? C'est-à-dire qu'on les parque, les gens, avec leur robot? Eh bien non. Voilà, on sait ça. C'est un danger. Hein. De la même façon que le jeune, il peut passer toute sa journée avec sa console sans plus parler à personne. Ah non, pas du tout, parce que c'est des gens en réseau. Donc, j'ai plein de copains tout autour du monde. Et donc, bon, ben voilà. Pareil, le robot, il peut aussi être le moyen de rester en lien avec son entourage. C'est le robot qui va dire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ton fils, allez, on va l'appeler. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles de ton médecin, tu ne peux pas lui dire comment tu vas. Voilà. Donc on va rappeler des rendez-vous, créer du lien avec les gens, continuer à la faire jouer, à lui faire faire des jeux de mémoire, à discuter avec elle. Donc on travaille beaucoup sur le dialogue. C'est important que ces robots humanoïdes, spontanément, vous voulez lui parler, puis vous voulez qu'il réponde, vous voulez interagir. Donc, on réfléchit sur le dialogue. Et tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment stimuler les personnes. Et puis après, et ça, on le met en dernier, qui sont peut-être les tâches que, en général, c'est ça qu'on nous demande en premier. Tu fais des robots humanoïdes, est-ce qu'il peut faire le ménage? Non, il ne peut pas faire le ménage, parce qu'il y a des robots aspirateurs pour ça. Voilà. Mais on sait que quand même, une fois qu'on a un robot humanoïde chez soi, c'est dommage qu'il fasse rien, quoi, qu'il s'assoie comme juste un pantin qui fait des gestes. Donc s'il peut aider à certains gestes comme le maquillage, aider à s'habiller, passer un manteau par exemple, on se dit que c'est à la fois très simple d'aider quelqu'un à mettre son manteau, mais c'est en même temps très compliqué, il faut attraper le manteau au bon endroit. Voilà. Et donc là, ça serait vraiment le robot et la personne vont apprendre à mutuellement enfiler un manteau ensemble, rechercher des objets dans une autre pièce. Là, on a un projet de recherche où quand vous parlez avec des gérontologues, le problème principal d'une personne âgée, c'est qu'elle ne retrouve plus ses lunettes. Et donc, si le robot était capable de savoir où sont les lunettes, soit parce qu'il se souvient où la personne les a mis, soit parce qu'il a pensé à mettre un petit capteur sur les lunettes, un peu comme l'araignée espion de Spider-Man, et comme ça, il retrouve automatiquement où sont les lunettes, et après, éventuellement, aller les rechercher. Ça, c'est une aide quotidienne. Ramasser des objets au sol et puis faire un peu de coaching sportif ou montrer des mouvements de gymnastique. Donc voilà, plein d'idées, plein de choses à faire, des choses faciles, des choses très difficiles, mais c'est ça c'est le programme du projet Roméo 2 qu'on devrait finir en fin 2016. Alors on va faire un peu de technique maintenant parce que je pense que vous voulez aussi savoir un peu plus près. Alors voilà, la différence de Roland là dans son exposé qui lui décortique des images de fiction pour mettre de la science à l'intérieur. Moi, je vous montre des choses tristement réelles et je vais quand même vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, ce n'est pas des calculs, c'est des constatations. Enfin, on a calculé avant d'en arriver là. Donc comment on fait un robot humanoïde? C'est très simple. Alors d'abord, une des particularités de Roméo, c'est qu'il a des yeux qui bougent. Et donc, il faut deux moteurs par œil. Alors vous me direz, deux moteurs, c'est un peu trop et vous le verrez. Enfin, j'espère que vous ne le verrez pas demain, mais il arrive que du coup, Roméo, comme un caméléon, il a un œil en haut à droite et l'autre en bas à gauche, ce qui est assez monstrueux. Chaque fois, je risque le licenciement quand mon patron voit ça. Donc, deux moteurs par œil, c'est peut-être pas très malin. Peut-être que le même pour faire monter baisse sur les deux yeux, ça aurait été suffisant, parce que loucher peut être utile. Mais en revanche, c'est vrai, regarder en haut et en bas. Bon. Donc là, c'est un peu de surspécification d'ingénieur. Quatre moteurs dans le cou pour avoir des tas de mouvements. Notamment, ce mouvement-là, on ne l'a pas sur Nao, et il est très, très expressif. Ces mouvements, du coup, servent surtout à l'expressivité du robot. Un moteur dans la main, comme je vous disais, en fait, c'est une espèce de grosse moufle qu'il a, Roméo. Nao, si vous avez fait très attention, on a un nouveau développement sur Nao qui lui permet de tendre un seul de ses deux doigts. Donc on travaille sur cette main, ça c'est un des premiers résultats. 7 moteurs par bras, 7 articulations pour répliquer un tout petit peu ce que c'est que l'articulation d'un bras humain. Encore une fois, quand plus vous faites des robots, plus vous comprenez que l'être humain est une machine extraordinaire. Parce que rien que faire fonctionner un bras, l'épaule, le mécanisme de l'épaule est horriblement compliqué. C'est pas deux rotations, il y a ce mouvement-là aussi, puis les rotations s'emboîtent, et vous dites, mais c'est trop compliqué, pourquoi il fait ça? Et en fait, vous apercevez qu'on est le résultat d'une évolution, décidée ou non par quelqu'un, mais on est le résultat d'une évolution, et on est quand même drôlement bien foutu. Et je ne vous parle pas de la façon dont on gère les pannes, ce que mon robot est incapable de faire. Donc 7 moteurs par bras, on arrive vaguement à avoir quelque chose qui ressemble au comportement d'un bras humain. Un moteur dans la colonne vertébrale, là encore la colonne vertébrale, c'est super compliqué à faire. 6 moteurs par jambe, un actionneur par orteil. Donc une des particularités de Roméo, c'est qu'il a un orteil, il n'a pas des pieds plats. Bon, vous avez marché avec des chaussures de ski, probablement, vous voyez qu'on est un peu moins à l'aise, on fait des pas un peu moins grands, notre démarche est un peu plus robotique. Et donc avec un orteil, même passif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur dans l'orteil, il peut juste plier l'orteil ou le bloquer quand on veut être bien stable sur ses pieds. On va avoir une démarche qui sera potentiellement beaucoup plus humaine, beaucoup plus souple, des haut-parleurs, parce que ça compte aussi dans l'interaction, des lumières dans la bouche, et puis après, des tas de capteurs. Ce qui fait l'intelligence d'un robot, pour être intelligent, il faut percevoir son environnement. Si vous êtes sourd, aveugle et muet, vous passerez souvent pour un imbécile, parce que quand on vous parle, vous ne répondez pas. Donc, plus vous avez de capteurs, moins vous êtes capteur, plus vous aurez de mal à être intelligent, et donc plus vous êtes capteur, plus vous avez de chance au moins pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour réfléchir. Donc, des capteurs tactiles, quand on lui touche sur la tête, quand on lui caresse la tête, donc ça c'est hérité de Nao qui avait ça. Quand Nao est un tout petit robot, assez spontanément on le caresse sur la tête, quand vous avez Roméo qui fait 1m40, un peu moins spontanément vous lui touchez la tête, bon, on l'a gardé, parce que pour nous dans le développement c'est toujours sympathique, et puis quand il écoute vraiment pas, on tape un petit coup sur la tête, ça le remet en face, les yeux en face des trous. Des caméras dans le front fixe, des caméras mobiles dans ses yeux, des micros pour écouter. Il y en a 4 actuellement. On a des recherches pour en mettre beaucoup plus, pour avoir une audition omnidirectionnelle, pour localiser Là encore, vous ne vous rendez pas compte du mérite que vous avez à écouter, à utiliser vos oreilles. Avec juste deux oreilles, vous êtes capable de localiser si un son il vient de la droite, de la gauche, si c'est un homme, si c'est une femme. Même quand il y a du brouhaha, vous détectez. Quand vous parlez, vous arrivez à écouter, enfin, souvent, vous arrivez à écouter ce qu'on vous dit en même temps que vous parlez. Tout ça, c'est épouvantable pour un robot. Et donc, dès que vous essayez de programmer tout ça, vous vous apercevez que l'homme est vraiment extra. Des centrales inertielles, un peu comme nos oreilles, notre oreille interne, pour connaître l'orientation du robot, est-ce qu'il est en train de tomber. Encore une autre dans le corps, ça coûte pas cher une centrale inertielle, on en met partout, je pourrais vous expliquer pourquoi. Des capteurs de pression sous les pieds, pour savoir si les pieds sont par terre ou pas, parce que ça compte quand vous marchez, de savoir détecter que votre pied a touché par terre, c'est ça qui déclenche le passage au pas suivant. Voilà, des capteurs de position, donc ça c'est la base de la robotique. Dès que vous avez un moteur, vous avez une position pour savoir où est votre moteur et pour contrôler finement la position. Même une position sur le moteur, une position sur l'articulation. Là encore, je pourrais vous expliquer pourquoi on fait les deux. Des capteurs de courant aussi, pour savoir quel effort, quel courant passe dans un moteur. Et le courant, c'est comme le couple, c'est-à-dire comme l'effort. Et donc en mesurant le courant qu'il y a dans une articulation, pour peu que l'articulation soit sympathique, eh bien vous arriverez à détecter l'effort que votre articulation exerce sur son environnement. Et donc, éviter de faire du mal aux gens, par exemple. Voilà, alors les premiers mouvements de Roméo. Donc ça, c'était en mars dernier. C'était vraiment, voilà, il découvre son propre corps, il fait pas grand-chose. Mais pour nous, après, voilà, après 5 ans, 5 grosses années de développement, voilà, on a eu enfin un robot entièrement assemblé, toutes ses articulations qui bougeaient. Faire bouger une articulation, c'est facile. Faire bouger deux, c'est facile. Trois, on y arrive. Cinq, voilà. Après, en faire bouger 37, comme sur Roméo, c'est facile sur le papier. Le problème, c'est qu'il n'y en ait pas toujours une ou deux en panne. Donc, avoir un robot avec 37 degrés de liberté qui marche en même temps, c'est ce que j'espère pouvoir vous montrer demain, bah, ça représente un défi d'ingénierie. Et là encore, et dans une autre mesure, quand vous regardez une voiture aujourd'hui avec tous les degrés de liberté, tous les moteurs qu'il y a dedans, il y a beaucoup plus de technologie dans une voiture que dans un objet comme celui-là. Et on ne se rend pas compte du miracle technologique dans lequel on est quand on est dans une voiture moderne. Il y a beaucoup plus de capteurs que dans un robot, il y a beaucoup plus d'intelligence. Voilà, et ça aussi, ça nous fait un peu relativiser le saut technologique que vont représenter les robots, mais c'est sûr que c'est une nouvelle forme, c'est une nouvelle apparence, c'est des nouvelles contraintes, c'est des nouveaux usages. Voilà. Mais relativisons un peu ce qu'il y a dans ce qu'est un robot par rapport à ce qu'est une autre machine. Alors ça, par exemple, ce qu'on va vous montrer là, ça, une voiture ne peut pas le faire. Alors, je retrouve mon curseur. Alors, tendez l'oreille, ou plutôt l'œil. Regardez Nao, Et là, tout est dans le regard.
Aide-moi.
Que puis-je faire pour t'aider ?
Vous arrivez à suivre que d'abord il regarde, il vous suit avec le regard. Et là, on travaille avec des physiologistes, avec le Collège de France, qui travaillent depuis des années sur comment on pilote son regard. Parce que de la même façon, piloter le regard, vous, c'est très naturel. Mais si moi, je pilote le regard du robot n'importe comment, ça va donner l'air étrange. Et donc, en fait, les physiologistes nous disent, d'abord, on suit avec le regard, et après, on tourne la tête. C'est tout bête, hein ? Tout ça, il faut le programmer. Et si vous ne programmez pas tous ces micro-détails dans les comportements du robot, vous allez avoir un robot étrange, un robot bizarre, qui va vous mettre mal à l'aise. Et c'est peut-être les petits détails qui vont faire que le robot ne sera plus accepté, mais sera rejeté. Et alors là, la première mission du robot, c'est évidemment la première mission que quand un ingénieur veut faire un robot humanoïde, c'est pour qu'il lui apporte des bières. Et donc, l'étape était comment attraper une canette. Et donc ça, c'est tout récent, vous voyez, c'est 19 septembre. Après 6 ans de recherche, enfin, notre robot arrive à attraper une canette. Et je peux vous dire que c'était la fête, comme vous pouvez voir sur A, le visage de A. Ça paraît tout bête d'attraper une canette, mais voilà. Pour faire ça, comme je l'ai dit, il faut que tous les capteurs marchent en même temps, que tous les actionneurs marchent en même temps, que le robot détecte la position de la canette, qu'il arrive à détecter qu'il y a un objet devant lui, calculer sa position, en déduire la trajectoire qu'il faut donner à son bras. Bon, là, on a un tout petit peu aidé Roméo. On lui a mis un casque, je ne sais pas si vous voyez l'espèce de casque de vélo qu'il a sur sa tête. Ça, c'est un casque qui contient un capteur 3D, donc un capteur qui lui permet de mesurer exactement la position de l'objet devant lui, ce qui simplifie pas mal la tâche. Voilà, donc vous voyez ici, on a quand même franchi une étape importante en ayant un robot capable d'attraper une canette. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il apporte la canette, et pour ça, il faut mettre au point la marche, ce qui est notre travail en cours. Alors, je vais finir par quelques considérations éthiques qui intéressent, dont il faut se préoccuper. Je vais aller très vite. C'est vrai que, avec toutes les, ce qu'on a vu dans les films de science-fiction, les robots, c'est un danger, ça va prendre notre travail, ils vont prendre le pouvoir sur nous, c'est épouvantable. C'est bien de se poser les questions, mais n'oublions pas que le robot est un outil. Programmable, certes, mais c'est un outil au même titre qu'un marteau. On ne se pose jamais la question de savoir si un marteau est éthique. En revanche, si l'usage du marteau est éthique, construire une maison pour abriter des enfants, c'est bien. Tuer sa grand-mère à coups de marteau, c'est mal. C'est le même marteau. Le même problème se posera avec les robots. Alors nous, évidemment, on ne peut pas se laver les mains. On ne peut pas dire, faites ce que vous voulez. Nous, on fabrique, après, vous vous débrouillez. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors l'idéal, ça serait de faire comme Asimov. Bah, je vais intégrer des lois dans le cerveau positronique et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Alors, d'une part, Asimov montre que ça ne suffit pas. On arrive quand même à avoir des soucis avec des robots qui respectent les lois d'Asimov, et puis on rajoute une quatrième loi, etc. Bon, et après, il y a des problèmes techniques, parce qu'implémenter les lois d'Asimov, ce n'est pas fastoche non plus. Hein. Donc, c'est une solution. Et je vous ai montré qu'à notre certaine mesure, on essaye de le prendre en compte, mais après, il faut que ça soit pratiquement réalisable. Donc, ce qu'on fait pratiquement... par exemple, nous, on pourrait dire à chaque fois qu'on va avoir une espèce de store sur lequel les gens iront acheter des applications pour leur robot, on peut dire telle application, on considère qu'elle est de bonne qualité, qu'elle manque de respect à personne, qu'il n'y a pas de propos racistes, qu'elle n'est pas dangereuse, voilà, etc. Donc, on peut faire une qualification d'une application et on dit cette application-là, elle est agréée, elle débarrasse. Si vous en servez, il ne devrait rien vous arriver. Si vous arrive quelque chose, on prendra une partie de la responsabilité. Et puis, il y a d'autres applications qu'on ne pourra pas certifier, soit parce qu'on trouve qu'elles sont moches, parce qu'elles sont dangereuses, soit parce que c'est trop compliqué de prouver qu'elles ne le sont pas. Voilà, mais on dira ça, c'est à vos risques et périls. Et donc, on fera des mises en garde légales en disant, écoutez, ça, c'est à vos risques et périls. L'usage du robot que vous ferez avec ça, nous, on se lave les mains. Et je cite souvent l'exemple des gens qui vendent des piscines en plastique. Je ne sais pas si vous avez lu. Quand vous achetez une piscine gonflable en plastique, il y a écrit, il faut l'utiliser avec des enfants qui ont pied, qui ont une bouée, et qui sont sous surveillance des parents. Donc voilà, s'il n'y a pas les trois conditions, nous on se lave les mains de ce qui pourrait arriver à quelqu'un. Et alors évidemment, personne ne se baigne dans sa piscine en ayant pied, une bouée et avec la surveillance des parents. Bon, mais au moins, comme ça, le fabricant de piscine est à l'abri. Alors sans aller aussi loin, nous il faudra qu'on dise, faites attention quand vous utilisez un robot, si vous n'utilisez pas dans les bonnes manières, voilà, on ne peut pas... Voilà. Et après, il y a aussi des solutions techniques. La sûreté, j'en parle un tout petit peu. Il faudra que notre robot soit protégé contre le pirotage pour que le robot qui est chez moi, quelqu'un le hack pas, puisse mettre à explorer, fouiller chez moi. Et puis aussi, surtout, et ça c'est peut-être le plus sérieux, la protection des données collectées. Le robot, il va vivre toute la journée avec moi. Il va voir ce que je mange, il va voir ce que j'écoute comme musique, ce que je regarde à la télé. Toutes ces informations-là, si ça tombe dans des mains pas mal intentionnées, mais à but lucratif, évidemment, tout ça peut faire... c'est ce qu'on reproche un peu à Google. Hein. Il ne faudrait pas que le robot soit une espèce d'aspirateur à données pour des gens comme Google. Voilà. Alors la sûreté, je finis là-dessus. Le robot, il est plus grand, donc forcément, il est plus fort, il est plus lourd, et donc forcément, il peut être plus dangereux. On doit travailler, nous, à ce qu'il ne tombe pas. Donc, je vous montrer une petite vidéo pour finir. On fait des choix mécatroniques, et puis on travaille aussi avec des méthodes de développement informatique qui sont issues du nucléaire, de nos amis du CEA, utilisées dans l'aviation et dans l'automatique, dans l'automobile, pour dire, mon logiciel, je sais qu'il va se comporter comme je le veux, il n'y aura pas de bug, et il ne s'écartera jamais de ce que je voulais faire. Alors ça, c'est compliqué, hein, mais on le fait dans l'automobile et dans l'aviation, dans le nucléaire, pourquoi ne le ferait-on pas aussi en robotique? Voilà, juste une petite vidéo pour vous remontrer Pepper. L'appareil juste chez moi, là. Voilà, donc ça, c'est un sujet de thèse. Voilà, c'est comment un robot se rattrape quand on le pousse. Et vous voyez ici, Pepper, elle accompagne au début avec le mouvement de son corps, et puis après, hop, elle se met à rouler pour ne pas tomber. Et vous voyez qu'elle arrive à résister quand même à des secousses assez fortes. Et avec un robot qui a des jambes, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est le travail en cours maintenant. Voilà, donc en conclusion, la science-fiction sur les robots, c'est encore beaucoup de fiction, un peu moins que dans les voyages interstellaires comme on a vu avant, on est un peu plus proche, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc les premiers humanoïdes que vous avez vus comme Ronao, ils seront très simples chez vous, ils ne feront pas des choses extraordinaires, mais comme ça les gens vont s'approprier, vont demander de plus en plus, et donc ça nous laisse le temps de maîtriser leur développement. Vraiment, ne perdons pas de vue, ah oui, j'ai pas commenté l'image de Real Humans, les robots sont des machines, c'est nous qui décidons ce qu'ils faisons, ce qu'ils font. Le robot ne se rebelle pas spontanément. S'il se rebelle, c'est que quelqu'un lui a dit de se rebeller. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer Wally. Alors Wally, il n'est pas humanoïde, quoique, en fait, par sa gestuelle, par son expressivité, il tend vers l'humanoïde. Et en fait, ceux qui ont étudié Wally d'un peu près voient qu'il y a plus de degrés de liberté dans Wally que dans Roméo. Mais voilà, ce que j'aime bien dans Wally, c'est que c'est un robot gentil. Au moins, on montre un robot qui diverge pas pour faire du mal à l'humanité. Il fait ce qu'on lui dit sans réfléchir, de son mieux. Et c'est ça qui est très sympathique dans ce personnage, parce que quand je cherche des images de robots, c'est quand même souvent des trucs qui se terminent mal. Donc là, avec Wally, au moins. Et je finis par vous dire, voilà, les robots existent. Vous pouvez les rencontrer. Donc on a ouvert un showroom, c'est à Paris, à Issy-les-Moulineaux, même juste à la limite de Paris, derrière l'Aqua Boulevard, pour ceux qui connaissent. Et là, vous pouvez passer toute la journée avec Nao et Pepper. Donc vous pouvez jouer avec eux, vous pouvez les programmer, c'est gratuit, c'est libre, c'est du mardi au samedi de 9h à 19h. Donc voilà, si vous voulez voir des vrais robots, voir où on en est, ce qu'on peut déjà faire et ce qu'on ne peut pas encore faire, vous êtes les bienvenus. Et voilà, plus on aura de visites, plus on se rapprochera des besoins de tous. Et puis plus vous saurez comment marchent les robots, mieux ça sera quand ils arriveront chez vous. Voilà pour moi. Je suis un petit peu en retard, mais on a encore le temps pour quelques questions. Ah, il y a une question là, merci.
Lors de la création d'un robot comme Nao ou Roméo, je suppose qu'il y a deux étapes. D'abord le matériel et après le logiciel. Qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes ? Créer les capteurs ou les programmer et les contrôler ?
Il y a même une première étape qui est la conception. Et la conception, c'est-à-dire qu'en simulation, on va dessiner notre robot, fabriquer notre robot, et pour vérifier quelle taille de moteur il faut, combien de capteurs il faut, etc. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'une fois que vous avez votre robot simulé pour la conception, vous pouvez commencer à développer le logiciel en même temps que vous fabriquez le matériel. Moi, je vous dirais que... Je pense que d'un point de vue matériel... Alors, il y a des tas de problèmes technologiques pour faire un robot, comme je vous ai dit, les fils. Le plus dur, c'est de faire passer des fils dans les articulations qui bougent. Ça, il n'y a guère qu'en robotique qu'on a ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment le câblage, c'est tout bête, mais le câblage, c'est vraiment la plaie du roboticien. Et le savoir-faire du roboticien se trouve dans le câblage. Donc je dirais que, et ça, Bruno Maisonnier, en créant son entreprise, en disant la techno est prête, il n'avait pas tort. En gros, tout est prêt, on trouve quasiment tout sur étagère pour fabriquer des robots humanoïdes. On aimerait que les capteurs soient un peu mieux, que les moteurs soient un peu mieux, mais ça va venir. Les batteries soient mieux, mais on arrive à faire des choses. Je pense que la partie intelligence et surtout usage, c'est ça qui est le plus dur. Et en fait, c'est là où Aldébaran a un peu sous-dimensionné, n'imaginait pas avoir autant de mal. On s'est dit, quand le robot existera, les gens seront contents. Non. Alors, il y a quelques geeks qui sont contents d'avoir un robot à programmer, mais la plupart des gens, ils veulent un robot qui va leur chercher une bière, qui passe l'aspirateur. Voilà. Et nous, on ne sait pas faire ça. Et donc, si on arrive avec notre robot comme ça, on va créer de la déception. Et donc, en fait... la vraie difficulté du robot humanoïde, c'est de trouver le bon usage qui soit adapté à ce que la techno logicielle sait faire. Bon, alors sûrement les mécaniciens vont se rouler par terre, mais en disant non, c'est super compliqué. Mais je pense que maintenant, ce qu'il y a vraiment la limite à franchir, c'est quel usage et comment apporter des usages aux gens qui correspondent à leurs attentes.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte Nao, Roméo et Pepper, une fourchette de prix pour la conception ?
Ah, la conception. Comment je pourrais vous chiffrer ça ? On me pose tellement la question que je devrais réfléchir une fois pour toutes. Bon, alors, Pepper, c'est pas mal parce que, en fait, on a mis... on a mis 2 ans, en fait, entre le moment où SoftBank est venu nous dire « je veux un Pepper », et le moment où on l'a produit en série. Alors on avait aussi commencé l'industrialisation. Il s'est sorti, il a passé 2 ans, et je pense qu'on a mis 200 personnes pour ça. Donc voilà, pour donner un ordre de grandeur, fabriquer aujourd'hui, pour fabriquer un nouveau robot avec quelques innovations technologiques, mais pas trop, voilà, 400 hommes en, bon, plus du matériel, voilà, donc c'est l'ordre de grandeur. Je ne sais pas si ça vous parle, ça répond à votre question, mais après vous multipliez le nombre d'hommes par le salaire d'un ingénieur Aldébaran, c'est-à-dire pas grand-chose, et puis vous avez une charge patronale beaucoup, et puis... Voilà, donc en gros, il faut 2 ans pour refaire un robot neuf, un nouveau robot, atteindre un niveau de stabilité, de fiabilité satisfaisant.
Je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à la concurrence. On parle beaucoup des Japonais au niveau des robots humanoïdes. Voilà, c'est ma question.
Bah, comme je le disais, on est les meilleurs, on est les leaders mondiaux en termes de fabrication en nombre de robots. Personne ne fabrique plus de robots humanoïdes que nous. En revanche, le robot Asimo de Honda, c'est le plus beau du monde. Il fait des trucs que je ne sais pas faire. Il court, il saute à cloche-pied, il parle à 8 personnes à la fois. Il a des doigts extraordinaires, il ouvre des bouteilles de voilà. Donc voilà, c'est pour ça, ça dépend des critères qu'on regarde. La France n'a pas à rougir. On a des très bons labos. Les Japonais, quand ils créent des labos, ils le créent avec des labos français. Il y a un labo commun franco-japonais. Une SoftBank qui est japonais, le jour où ils ont voulu mettre des robots dans leur boutique, ils ont fait le tour de toute la planète, de tous les gens qui faisaient des robots, et ils ont identifié deux boîtes dans le monde sérieuses, Honda, qui fait Asimo, et Aldébaran. Voilà. Ils avaient du mal à racheter Honda, pour des raisons qui m'échappent, probablement financières, et en revanche, Aldébaran, ben voilà, ils ont pu se l'offrir. Donc en même temps qu'ils ont passé cette commande, ils ont investi massivement dans Aldébaran, parce que le patron de SoftBank dit, a la même vision que notre patron sur l'avenir de la robotique dans notre société, et il a dit, voilà, Aldébaran, c'est le champion qui peut faire ça. Donc voilà, c'est des factuellement, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, c'est du cœur qui nous dira que nos robots, ils sont plus beaux que ceux des autres, mais... Je crois qu'on me demande d'arrêter discrètement avec une musique de fond, mais on prend encore une question, ou c'est... Bon, sinon, moi, je reste là hein, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup.